7h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Il y a les discours et leurs illustrations concrètes. Alors qu'à Bakou, à la COP29, les négociateurs des pays africains insistent sur la nécessité d'augmenter le financement de l'adaptation au changement climatique. Reportage dans quelques instants à Madagascar, où les précipitations manquent dans les régions agricoles, mais où la saison des pluies est redoutée dans les bas quartiers de la capitale Antananarive. Dans ce journal également, le Fonds monétaire international et la RDC qui trouvent un accord sur le financement de deux projets. À terme, Kinshasa pourrait recevoir près de 3 milliards de dollars. Le Tchad et le PSF, le parti de feu l'opposant Yaya Dillo, qui dénonce des candidatures faites en usurpant son nom, alors que le parti boycotte les élections législatives le mois prochain. Et puis reportage à Dakar, la capitale du Sénégal, à J-3 là des élections législatives, caravane commune hier pour trois grandes coalitions de l'opposition. Les chefs d'État, en tout cas ceux qui étaient présents, sont partis. Restent désormais les équipes de négociation à Bakou, à la COP29, conférence de l'ONU sur le climat. La teneur des discussions, elle, ne change pas. Hier, les représentants de plusieurs pays africains ont une nouvelle fois insisté sur ce qui est le cœur de ces deux semaines de discussion. Augmenter les fonds mis à disposition des pays les plus pauvres, à la fois pour leur permettre d'être moins dépendants du gaz et du pétrole, et surtout aussi pour faire face aux conséquences du changement climatique. Envoyé spécial à Bakou, Manon Chaplin.
Le sommet des chefs d'État aura été l'occasion pour les représentants africains de mettre en lumière l'intensification des catastrophes climatiques dans la région. Dans toutes les têtes, les inondations dévastatrices qui ont touché l'Afrique de l'Ouest ces derniers mois. Jean-Baptiste Avogimana de la communauté des pays est-africains en appelle à plus de solidarité internationale.
Le manque d'adaptation climatique en Afrique est plus ou moins une question d'infrastructure. Si vous installez par exemple au Nigeria les mêmes systèmes de contrôle des zones inondables que ceux disponibles aux Pays-Bas, alors beaucoup d'inondations n'aurait pas lieu en Afrique. Mais de fait, les infrastructures nécessitent des financements.
S'accorder sur le montant du fonds de financement climatique à destination des pays en développement, c'est justement l'enjeu principal cette année. Un minimum de 1 000 milliards de dollars serait nécessaire afin de compenser, entre autres, les pertes et dommages liés au changement climatique. Un engagement bénéfique à tous, affirme le conseiller de la République démocratique du Congo, Joseph Malassi.
Il y a des pays qui se comportent comme si, quand ça brûlera, eux, ils seront dans un frigo en train de se rafraîchir. On brûlera tous ou on survivra tous. Chaque dollar qui est investi pour guérir la planète, c'est fait pour des raisons qui nous sont tous profitables.
Les effets du changement climatique font perdre chaque année entre 7 et 15 milliards de dollars aux pays africains. Depuis 1850, le continent n'est pourtant responsable que de 3% des émissions de gaz à effet de serre. Manon Chaplin, à Bakou, RFI.
Le changement climatique qui accentue les phénomènes météo extrêmes. On l'a vu ces dernières années avec les sécheresses, par exemple, dans la région de la Corne de l'Afrique. Plus récemment, ce sont les pays du Sahel qui ont connu des inondations exceptionnelles. À Madagascar, c'est aussi l'eau qui pose problème quand elle manque dans les régions d'agriculture et d'élevage ou pour remplir les barrages hydroélectriques ou quand elle tombe en trop grande quantité. À Antananarive, les bas quartiers au sens géographique de la ville, comme chaque année, c'est avec appréhension qu'on se prépare à la saison des pluies. Reportage de Pauline Le Troquier.
En Davamande, des ouvriers forment des montagnes d'ordures dans le canal C3 bis, l'un des canaux d'évacuation d'eau usée oubliée de la plaine d'Antananarive. Transportés par camion, les déchets doivent définitivement disparaître quelques heures plus tard. Toudz est l'un des ouvriers chargés du curage.
Ici, on souffre vraiment parce que quand l'eau déborde, ça nous arrive au milieu de la cuisse. Les meubles flottent partout dans la maison. Heureusement, cette année, le curage devrait vraiment limiter les dégâts.
Pour affronter cette période, la même chaque année, les habitants misent sur des solutions de fortune pour protéger leur toit. Là où certains se contentent de briques pour surélever leurs meubles, Blandine a choisi une stratégie plus radicale.
Nous sommes certains que l'eau n'entrera plus dans notre maison, car on vient de surélever le plancher d'un mètre. Mais on a toujours peur que l'eau ramollisse les fondations de la maison et qu'elles finissent par s'écrouler.
Dans ces bas quartiers de la capitale, les autorités se rendent chaque année au chevet des sinistrés, mais les réponses d'urgence ne suffisent pas. En dehors des épisodes cycloniques, les fortes pluies ont fait à elles seules au moins 10 morts à Madagascar en 2024. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Sachez aussi qu'hier, le Fonds monétaire international a annoncé la création d'un fonds de financement vert pour la Côte d'Ivoire, Abidjan qui entend ainsi centraliser les financements des projets de développement durable et qui compte à terme recueillir au moins 500 millions de dollars. Le FMI annonce aussi avoir conclu un accord avec la République démocratique du Congo. En jeu, près de 3 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Alors de quoi parle-t-on exactement ? On voit cela avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi.
Le premier programme, soutenu par la Facilité élargie de crédit, représente un montant d'environ 1,77 milliard de dollars pour accompagner la RDC vers une croissance plus diversifiée et inclusive. Ce programme, qui s'étend sur 3 ans, exige du gouvernement congolais des réformes strictes, avec un accent particulier sur le respect des procédures de dépenses publiques. Quant au second programme, lui aussi sur 3 ans, est soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité. Il alloue 1,1 milliard de dollars pour aider le Congo à jouer un rôle central dans la transition mondiale vers une économie bas carbone. Ce programme appuiera des actions de protection forestière, renforcera la résilience du pays face aux catastrophes naturelles liées au climat et encouragera l'intégration des enjeux environnementaux dans la planification des investissements publics. Ces accords seront soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI en janvier prochain. Mais dès à présent, le FMI appelle le gouvernement congolais à intensifier ses efforts en matière de gouvernance, de transparence, notamment dans le secteur extractif, et des luttes contre la corruption, afin de créer un environnement favorable à ces investissements de grande envergure. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
À Kinshasa, où le gratin du monde économique se donne rendez-vous depuis hier et jusqu'à demain, au Forum des affaires Makutano, 10e édition dans la capitale congolaise, et plusieurs ministres ainsi que le président en personne ont fait le déplacement, signe visiblement de l'importance qu'ils accordent au climat des affaires sur place. Pauline Azidi.
Je déclare ouvert les travaux de Makutano 10.
Le président Félix Tshisekedi en personne pour ouvrir ce forum, c'est dire qu'en 10 éditions, il s'est imposé comme un incontournable à Kinshasa. Des centaines de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs comme Priska Makila ont bien l'intention de faire entendre leur voix vis-à-vis des institutions publiques.
Je participe à un panel avec les ministres de l'industrie. C'est une occasion pour moi de poser de vraies questions aux ministres de l'industrie, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les entrepreneurs qui évoluent dans le numérique, puisque c'est ça la 4e révolution aujourd'hui.
Et à Makutano, le but, c'est de faire du réseau. Les coulisses sont aussi importantes que les paroles officielles pour Khalil Al-Amerikani, le DG de Vodacom, l'un des géants de la téléphonie dans le pays.
Il est important de faire partie de ces forums où il y a beaucoup d'entreprises et de décideurs et de régulateurs et d'innovateurs qui sont présents. Dans tous les grands forums, il y a ce qui se passe sur scène, mais il y a également toutes les conversations et les échanges et les rencontres qui se font en off, que ce soit Makutano ou d'autres événements du même type.
L'objectif affiché de ce 10e rendez-vous, c'est de parvenir à un New Deal, une nouvelle façon pour l'Afrique de repenser ses méthodes de développement. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
À la RDC, où l'on apprend aussi que le festival Amani à Goma, à la grande ville de l'Est congolais, est annulé. Un événement souvent présenté comme l'un des plus grands rendez-vous culturels de la région des Grands Lacs et dont la 10e édition aurait dû débuter aujourd'hui. En cause, pour expliquer cette annulation, un différend sur l'organisation avec la mairie de la ville. Et les responsables du festival indiquent que les billets achetés seront intégralement remboursés. Pour l'ambassadeur de France en Centrafrique, c'est, je cite, le signe du réengagement progressif et de la normalisation des relations entre les deux pays. La France va reprendre son aide budgétaire à destination de Bangui. Elle avait été suspendue il y a 3 ans, tout comme la coopération militaire entre les deux pays. Paris jugeant alors Bangui complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. RFI 7h39 à Libreville, au Gabon, un pays où la campagne électorale touche à sa fin. Samedi, référendum constitutionnel, 1 an et quelques mois après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo. Notre invité Afrique ce matin, c'est le chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima. Lui fait campagne pour le oui, même si le projet de nouvelle constitution prévoit des pouvoirs largement renforcés pour le futur chef de l'État et même la suppression de son poste de Premier ministre. Entretien à écouter dans dans quelques minutes, juste après ce journal. Campagne et polémique au Tchad. Alors que l'ange, la commission électorale, a révélé mardi la liste des candidats autorisés à concourir fin décembre pour l'élection législative, le Parti Socialiste Sans Frontières s'insurge. Le PSF, c'est la formation de l'opposant Yahya Dilo, tué lors d'un raid de l'armée au mois de février. Le PSF qui a décidé de boycotter son scrutin et qui dénonce la validation en son nom de personnalités extérieures. Évariste Gabnon est le directeur de la communication et des relations publiques du PSF.
Nous avons appris comme tout le monde qu'il y avait des personnes sur la liste provisoire publiée par l'Agence nationale de gestion des élections. Nous ne reconnaissons pas dans ce processus-là. Nous avons boycotté les élections référendaires, nous avons boycotté la présidentielle. Tout récemment aussi, nous nous sommes joints au GCAP pour dire que nous nous abstenons et nous boycottons aussi les élections législatives. Sur ce, nous disons que nous ne reconnaissons pas ceux qui se disent qu'ils sont candidats du PSF, qui sont sur la liste. Nous sommes prêts à faire déjà des recours à travers nos avocats. Nous ne reconnaissons pas ces usurpateurs et ces perturbateurs.
L'opposant tchadien Évariste Gabnon au micro de notre correspondant N'Djamena, Olivier Monodji. Et notez qu'hier, le GCAP, qui est une coalition menée par un autre opposant tchadien, Max Kemkoy, le GCAP a confirmé qu'il maintenait sa position de boycott. Et cela même après des discussions avec des représentants de la CEAC, la communauté d'Afrique centrale. Le GCAP qui dénonce les conditions dans lesquelles les élections législatives se préparent. Un scrutin qui se rapproche, c'est au Sénégal, dernier jour de campagne aujourd'hui et demain, avant les législatives de dimanche. On s'intéresse ce matin à la situation de Dakar, la capitale sénégalaise, où la coalition menée par le maire de la ville, Barthélémy Diass, fait alliance avec celle de l'ancien président Macky Sall et aussi avec celle de son ex-premier ministre Amadou Ba. Et tous ont défilé ensemble hier. Reportage de Gwendal Lavina.
En plus de la couleur verte omniprésente de Sam Sakadou qui organise la caravane, on distingue par endroits le beige de la coalition Takou-Walou menée par l'ancien président Macky Sall. Ali Oumara, coordinateur de Sam Sakadou dans la commune de Sikap Liberté, revendique de mettre les divisions du passé de côté pour créer un front commun contre le PASTEF.
Cette alliance est une alliance nécessaire. Toute l'opposition s'est réunie, quand bien même on était d'obédience différente, parce que sinon, notre pays va aller à la dérive.
Jean est venu soutenir le maire de Dakar et tête de liste, Barthélémy Diass. Il a souvent manifesté contre Macky Sall, mais avec son vote, il veut surtout sanctionner les 8 premiers mois d'Ousmane Sonko au pouvoir.
Sonko nous avait promis, avant les élections, il nous dit il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci. Depuis lors, rien n'est prouvé. On lui dit de respecter ses paroles et ses ambitions.
Casquette de l'APR, l'Alliance pour la République de Macky Sall sur la tête, Zal Diallo se montre pragmatique sur cette alliance.
En matière de politique, on ne peut dire jamais, jamais. Aujourd'hui, je crois que c'est le Sénégal même qui a envie que toute l'opposition se réunisse. On ne cherche pas la majorité pour renverser le gouvernement. Non, on cherche la majorité pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice.
Dimanche soir, les partis membres de l'intercoalition sauront si le dépassement des clivages qu'ils prônent a séduit les Sénégalais et leur permet de décrocher des sièges. Gwendal Avina, Dakar, RFI.
Et dans l'actualité des pays africains, ce matin également le Mozambique, où l'on compte au moins 6 morts hier dans la répression de manifestations de l'opposition à Nampula, dans le nord du pays. La situation à Maputo, la capitale, a été bien plus calme et des rassemblements sont encore prévus aujourd'hui et demain à l'appel de Venancio Mondlane, l'opposant qui conteste les résultats officiels de l'élection présidentielle du mois dernier. Et puis un mot de football, avec en ce moment les qualifications pour la prochaine CAN. Parmi les résultats d'hier, le match nul un partout entre la Sierra Leone et le Tchad, un match qui qualifie la Côte d'Ivoire et qui élimine le Tchad. Aujourd'hui, 9 matchs sont au programme, dont Algérie, Guinée équatoriale, et un match nul suffira aux Guinéens pour assurer leur qualification. À Malabo, il est maintenant 7h44 et vous êtes avec André-Anne Mellard pour la suite des RFI Matin.